J'aimerais prêcher ce matin sur la continuité du prêche qu'a fait notre futur pasteur Thierry Mathieu en juin 2025 lorsqu'il était parmi nous sur l'importance de l'unité de l'Église. L'unité de l'Église, c'était aussi l'un des thèmes du synode de notre union, puisque c'est l'union des Églises évangéliques, en mai 2025, et c'était un des thèmes principaux qui s'appuyait sur le passage d'Éphésiens 4, 4-6. J'avais prévu ça, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai changé. Mais parce qu'un pasteur à la retraite m'a dit récemment que la prédication qu'il a le plus marquée dans sa vie, alors qu'il avait 40 ans de ministère, et c'est celle du pasteur Joël Tebois à l'église du Point du Jour, qui est une église de la région parisienne qui est devenue très grande en France. Je ne sais pas s'il y avait 1000 membres, on va parler de méga-church, mais c'était très inhabituel en France. Et au moment de la prédication, Joël Tebois a ouvert sa Bible et avait lu ce passage bien connu de tous, et je pense tous vous, Matthieu 22, 36 à 40. Matthieu 22, 36 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. » Puis, Joël Tebois a refermé sa Bible et il dit, « C'était ma prédication pour vous aujourd'hui. » Et il est retourné à sa place. Et après avoir tout travaillé sur le texte, je me suis dit, ben, j'aimerais vraiment, parce que c'est la parole du Seigneur, et pour prêcher l'unité de l'Église de Jésus-Christ, c'était Dieu qui devait parler, et je ne sais pas trop ce que je vais vous dire, et j'ai envie de faire ça. Mais moi, j'aimerais vous le relire, alors que dans un autre évangile de Marc, donne aussi le même passage, dans l'évangile de Marc, mais en reprenant le texte et en vous disant ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est ce que Jésus veut dire ce matin. Alors c'est vrai que c'est pour l'église locale, mais c'est pour toutes les églises, à son église d'Aubagne. Et je vais juste personnaliser en pensant que c'est Jésus qui nous parle. C'est Jésus lui-même, notre Dieu est grand, qui nous parle. C'est pas un homme. Je suis juste un instrument qui essaie de retraduire la parole. Mais la parole, elle vient de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre comme ça à la légère. On l'a vu, notre Dieu, il est grand. Écoutez-moi ce que cela donne. Écoute, petite église d'Aubagne. Voici mon commandement. Le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Voici, comme je vous l'ai dit, ce qui m'est venu à vous partager dans le contexte que nous vivons. Et de dire à nous, de le mettre en pratique. Souvent, les gens demandent, mais c'est quoi que nous devons faire? Mais est-ce que Jésus ne nous l'a pas dit dans sa parole? Est-ce que la parole de Dieu n'était pas là pour nous enseigner le chemin? Mettre en pratique la parole, c'est bien ce que nous enseigne Jésus, non? Matthieu 7, 24, parabole bien connue aussi, ceux qui sont longtemps, depuis longtemps, à lire les évangiles. Matthieu 7, 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Que puis-je vous dire de plus, moi, prédicateur ou porteur du message de l'Évangile? Tout est là. Pour ma part, quand je suis devenu chrétien et à près de 40 ans que je faisais mes études, je préfère écouter une seule parole de Dieu qui s'adresse à moi et faire des efforts pour la comprendre et la mettre en pratique plutôt que de vouloir connaître toute la Bible. Même si je ne veux pas vous dire que je ne peux que vous encourager à connaître toute la Bible. Mais parce que ce que vous mettez en pratique, c'est ce que le monde autour de nous regarde de l'Église de Jésus-Christ. Est-ce qu'ils mettent en pratique ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils mettent en pratique ce qu'on comprend du commandement de Dieu? Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui comprennent le commandement. Beaucoup de gens autour de vous n'ouvriront peut-être jamais une Bible, mais ils vous verront et ils nous verront, nous chrétiens, nous Église, vivre. Et ce sont nos vies qui deviennent comme des témoignages vivants de la parole de Dieu. N'était-ce pas ce que Jésus a été, la parole incarnée? Cette parole a été écrite pour que nous en ayons le témoignage, mais c'était un témoignage de la vie de Jésus et de ses propos. Ainsi, une parole, une seule parole, peut changer la vie d'une personne pour l'éternité. Et j'aimerais vous dire, un seul de vos paroles à vous, un seul de vos actions peut changer la vie d'une personne autour de vous pour l'éternité. Pas nous qui changeons, mais parce que vous êtes les témoins de Jésus-Christ qui fidèlement essayez de mettre en pratique ce que le Seigneur vous a enseigné. Pour moi, quand j'ai découvert et relu les évangiles que je connais, c'est que j'avais vu à l'Église catholique, j'ai un verset qui m'a marqué. Et souvent, dans les histoires des chrétiens, il y a une parole, elle est différente pour chacun, vous remarquerez. Souvent, un verset qu'il a marqué, une parole de Jésus. Peut-être, vous le connaissez toute la vie, mais une parole qui change ta vie. Parce que Jésus veut te parler ce matin à toi personnellement. C'est pas pour moi, à toi, il te parle. Et moi, celui qui m'a marqué, c'est Jean 15, 13. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. J'ai alors compris que le but de Jésus en venant sur terre, c'était de nous donner une joie parfaite. Et moi, je n'étais pas heureux, j'ai voulu cette joie pour moi, peut-être c'était égoïste, mais j'ai compris. Et souvent, j'aime dire aux gens, quelles que soient les difficultés, si Dieu nous donne ses commandements, parce qu'il sait que si nous suivons ses commandements, nous serons heureux dans ses commandements même. Ce n'est pas pour nous punir, c'est parce que Jésus veut votre paix, votre joie, votre bénédiction parfaite pour l'éternité. C'est ça une de nos difficultés. Quand on est un chrétien baptisé, converti depuis longtemps, peut-être nous avons entendant des centaines, des milliers de messages de pasteurs, d'évangélistes, d'enseignants pour nous expliquer, décortiquer les paroles de Dieu. Mais si cette parole ne touche pas notre cœur, si nous n'y goûtons pas par nous-mêmes en la mettant en pratique, bien alors cela ne nous sert à rien. Ainsi, pour revenir à mon message du plus important des commandements de Jésus dans l'Église de Jésus-Christ, s'il n'y a pas l'amour du prochain, notre ministère pour Christ, je vous le dis, est vain. N'est-ce pas ce que Paul essaie de nous expliquer dans ce magnifique passage de Corinthiens 13, versets 1 à 3, je vous explique cela, qu'on utilise très souvent pour les mariages. Très souvent, quand on est dans les mariages, on va prendre ce passage sur l'amour, mais il s'adresse en réalité à l'Église et aux premiers chrétiens. Je vais lire Corinthiens 13, 1 à 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai, imaginez le don de prophétie, la science de tous les mystères, toute la compréhension de la Bible, de toutes les complications, de toute la théologie, toute la connaissance, quand même j'aurai toute la foi, comme on l'a chanté, transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Ainsi, si nous n'avons pas l'amour, tous les dons spirituels qu'il y a dans l'Église et que Dieu donne à son Église ne nous servent à rien. C'est bien ce que veut nous dire Paul. Et il est clair qu'une Église locale divisée, où les gens ne se feraient pas confiance, avec de l'hypocrisie, sans amour les uns pour les autres, ne peut être un témoin de l'amour de Christ dans ce monde. Alors, j'aimerais juste m'arrêter là un moment avec vous et prier, parce que ce Dieu qui connaît tout, qui connaît notre nature humaine, pécheresse, imparfaite, veut nous faire toucher ou doit aussi notre misère humaine dans l'Église. Nous sommes évidemment humains. Et qu'il nous fasse, et j'aimerais juste qu'on prie, qu'il nous fasse comprendre finalement ce que nous dit aussi Paul, la profondeur, la grandeur de l'amour qu'il a pour nous, afin que nous montrions aussi un peu de cet amour pour les autres. Je vais prier pour ça. Seigneur, je te prie de montrer dans nos cœurs l'amour infini que tu as eu pour nous. Seigneur, nous voulons reconnaître notre misère, notre faiblesse humaine, notre incapacité à mettre en œuvre parfaitement. Mais toi, Seigneur, si nous approchons de toi, si nous approchons maintenant au trône de ta grâce, tu nous dis, je lave tes péchés, je te relève de tout ce que tu as fait, je vais bâtir sur toi mon Église, je vais me servir de toi, tu vas être un pilier du temple, tu vas être un témoin auprès des nations. Voici, n'aie pas peur, petit troupeau, je t'envoie maintenant avec mon amour annoncé la paix pour le monde. Alors, je ne sais pas si c'est nécessaire d'en dire plus ce matin, un peu comme Joël te voit, je voulais m'arrêter là. Et puis peut-être que c'était trop une pensée humaine, que bon, peut-être ça tendait à plus au niveau du conseil sur la prédication. Mais pour moi, c'est le message de Jésus-Christ pour notre Église et l'encouragement pour Jésus-Christ et pour toute l'Église du monde universel. Maintenant, je vais quand même commenter ce temps un petit peu du passage qui a été choisi par l'Union d'Église en le lisant, en commentant relativement peu, sur l'importance de l'unité. Et donc, c'est appuyé sur Éphésiens 4. J'encourage à lire tout Éphésiens 4. Et ici, les commentaires, on pourrait passer des heures. C'est d'une richesse extraordinaire. Je vous propose juste de lire les 7 premiers versets, et puis je vous encourage chez vous à méditer toute la suite, tout Éphésiens 4. Donc pour ce matin, Éphésiens 4, versets 1 à 7. Cherchez dans vos Bibles. Alors, je ne sais pas si c'est une version Bible du Semeur ou version seconde, vous verrez en fonction de la lecture. Disons donc, Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. Paul nous exhorte donc dans ce passage à vivre une vie digne de l'appel reçu, à maintenir l'unité de l'Église en vivant avec amour et intégrité. C'est une exhortation très forte. Il dit « Je vous exhorte », ce n'est pas quelque chose, c'est vraiment une demande de l'apôtre, fondateur de l'Église, ou des Églises où nous sommes. Et il faut comprendre cela, pourquoi ? Parce qu'il faut être digne de la vocation que nous avons reçue. Si nous n'avons pas conscience de la vocation, ou si nous n'avons pas encore reçue, le Seigneur vous recherche ce matin et va vous conduire, chercher, et vous trouverez. Et si vous avez reçu cet appel du Christ, vous devez prendre conscience de la vocation extraordinaire qu'il va décrire Paul dans toute l'ouverture de Éphésiens 1. J'ai juste pris quelques versets. Quelle vocation extraordinaire! Dieu nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Et en Christ, nous avons obtenu la délivrance et le pardon de nos péchés. Donc, nous sommes, ce qu'il dit, co-héritier. Oui, si tu as accepté Jésus-Christ, tu es co-héritier du royaume de Dieu avec Jésus-Christ. C'est pour ça que dans les chants, on dit un frère comme un frère. Quelle vocation, quelle responsabilité. Donc, cette unité dont il parle, nous la devons à ce qui est très bien décrit au verset 4. Au fait, nous avons reconnu cette vocation. Il nous faut d'abord avoir reconnu cette vocation. Et c'est ceci au moment où le Saint-Esprit qui nous ouvre les yeux pour que nous vivions cette vocation. Il ouvre nos oreilles. Et il le décrit au verset 4, l'unité, c'est parce que quand nous avons compris ça, nous comprenons qu'il y a un seul corps, le corps de Jésus, son sang versé pour tous, un seul esprit, le Saint-Esprit. Et il dit qu'il va guider son Église. Et puis, une seule espérance, qui est la vie éternelle de la résurrection dans le royaume de Dieu, tous ensemble. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Ce corps de Jésus dans le monde, c'est l'Église de Jésus-Christ. Il est parfois considéré à son épouse. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Quelle responsabilité nous avons! Alors, dans la vie éternelle, nous vivrons cette unité parfaite avec Christ. Mais vous avez peut-être remarqué que nous n'avons pas encore cette unité dans l'Église sur cette terre. Ceux qui ont suivi souvent le déjà, pas encore. Elle est acquise, mais pas encore. Parce que nous avons encore nos imperfections. Il y a de nombreuses divisions, vous le constatez, entre les églises, entre les dénominations. Je pense en particulier quand, dans le monde évangélique, à tel point que les gens ne comprennent même plus pourquoi il y a tant de dénominations. C'est pas les gens qui sont absolument perdus. Mais il y a aussi beaucoup de divisions dans l'église locale, et si je peux vous rassurer, sur le côté, dès le début de l'Église, on voit en particulier dans l'Église de Corinthe, il y a des divisions et des tensions extrêmement fortes. Et il y en a donc. Mais j'aimerais qu'on réalise, vous le verrez dans la fin d'Éphésiens 4, si vous lisez, que ceci est l'œuvre de l'ennemi, de Satan. L'œuvre du diable, c'est d'empêcher que l'Église règne sur la terre. Et souvent, je me dis, Satan, il n'y a pas grand-chose à faire. Juste attiser un peu notre propre orgueil, notre propre envie d'avoir raison, nos propres jalousies, notre propos pour embellir les choses. C'est notre vieille nature, celle qu'on a essayé de faire mourir au baptême. Elle revient, elle est toujours là, prête à revenir au galop. Et Paul est très réaliste sur la situation des chrétiens, parce qu'il intervient auprès de l'Église de Corinthe, aussi pour les exhorter. Mais si on lit plusieurs des lettres de Paul, vous remarquerez à un moment qu'il est obligé d'intervenir pour rappeler de faire vos efforts. S'il dit « faites vos efforts pour vous supporter les uns les autres », incroyable, ça veut dire que ce n'est pas facile. Non. Se supporter les uns les autres est quelque chose de pas facile. Et je crois qu'il faut réaliser ça. Vous avez mis dans la prédication que j'enchaîne de Thierry Mathieu que les relations humaines, c'est quelque chose de difficile. Et il nous faut regarder à notre Dieu. Vous avez compris, c'est l'amour, notre Dieu. Mais nous, nous sommes imparfaits dans ces relations. Et Paul dit bien, efforcez-vous de conserver l'unité. Il le dit aux Corinthiens, il dit... Ne laissez pas de division s'introduire entre vous. La division est vraiment, Satan se régale de la division de l'Église et des Églises de Jésus-Christ. Quand je dis si l'Église était une, parce qu'on verra la puissance de Dieu, la puissance à l'œuvre. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, une seule espérance, un seul Saint-Esprit. Ce qui est intéressant dans ce texte, et dans d'autres parties du texte, je vais juste prendre celle-ci, Paul nous donne des éléments très pratiques pour conserver l'unité. Et souvent on dit, ben oui, il faut demander l'aide de Dieu, mais il y a aussi, quand il dit faire des efforts, c'est toutes nos forces, et des fois c'est humain. On ne peut pas s'appuyer juste sur le Saint-Esprit, et souvent on dit, le Saint-Esprit va tout faire, il va m'aider, mais oui, mais il dit, faites tout ce que vous faites. Donc il dit là, dans ce texte, il nous parle de marcher en toute humilité, en un mot-clé, l'humilité. Avec douceur, avec patience. Je dis, c'est un peu la nature des gens. Pour certains, c'est plutôt facile parce qu'ils sont naturellement doux et patients. Et pour d'autres, pour celui qui est colérique, naturellement, c'est difficile. Dieu lui dit, ben, fais des efforts, sois patient, apprends. Il nous faut demander de l'aide. Et chaque fois que nous sommes en colère, nous pouvons revenir à la croix, à Jésus. Seigneur, je suis mis en colère, aide-moi. Et puis, dans Philippiens, aussi que nous avions lu, il y a une règle très pratique dans Philippiens 2, 3, 4, par exemple. Il nous dit de considérer les intérêts des autres, de les respecter. C'est très pratique, ce n'est pas le Saint-Esprit. Hein. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc, ça veut dire que conserver l'unité peut donc signifier d'accepter d'avoir des perspectives différentes sur un sujet et de collaborer avec un frère ou une sœur, même si on n'a pas le même point de vue. Alors, je ne vais pas rentrer, on va rentrer très loin dans d'autres passages de Paul en particulier. Sur manger des viandes sacrifiées, mais on le voit bien, les efforts qu'il fait pour conserver l'unité, jusqu'à accepter de dire, ben, si personne croit que par sa foi c'est important de manger des viandes sacrifiées, je ne vais pas moi le rebuter à cause de cela. Donc il y a des limites, l'important c'est de le faire dans l'amour, de nous apprendre à respecter les différences, y compris dans notre façon. Et ça, c'est difficile. Et pourtant, frères et sœurs, je crois que c'est quand même l'enseignement que nous donne Paul ce matin sur la mise en pratique de l'amour. Si on est colérique, si on n'a pas ce tempérament-là, Il faut savoir le reconnaître humblement. Et on a quand même cette parole de l'humilité. Et on retrouve cet effort, je vais lire celui-ci qui m'a toujours marqué, Colossiens chapitre 3, versets 13 à 14. Supportez-vous les uns les autres. Ça m'a toujours marqué. Même pas à parler d'amour. À des gens, je ne supporte pas. Alors, je me reconnais très bien dedans. La parole nous parle à chacun. C'est vous qui savez si c'est une faiblesse pour vous ou pas, mais pour moi, c'est une faiblesse. Je ne suis pas trop, je ne supporte pas. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qu'on traduit hein, charité, amour. Dans Corinthiens, je voulais traduire par amour, parce que au charité, en français, un peu dérivé, on ne comprend pas tout à fait, mais c'est l'amour qui est le lien de la perfection. Donc, toujours la même solution. C'est revenu à des basiques, la même solution qui donne Jésus, le pardon et l'amour, conformément au plus grand commandement que j'avais envie de vous relire pour ce début de ce que nous voulons construire ensemble pour l'Église de Jésus-Christ. Alors, comme Paul, j'aimerais nous exhorter ce matin, et moi-même le premier, à faire des efforts. Pour construire, et je vais m'adresser la plus particulièrement à l'Église évangélique d'aujourd'hui, parce que c'est notre rôle, de construire cette nouvelle année qui est devant nous sur de nouvelles bases. Nous pardonnons les uns les autres, nous respectons les uns les autres, considérant les intérêts de l'autre, en montrant de l'amour pour mon frère et ma soeur. Prions. Seigneur, je prie que vraiment ta parole pénètre notre cœur et qu'on réalise l'extraordinaire vocation que tu nous as donnée individuellement, mais en tant qu'Église et en tant qu'Église d'Aubagne pour être un témoin. Aide-nous dans ta grâce et malgré nos faiblesses, malgré nos caractères, malgré notre vieil homme qui revient au galop, à nous concentrer aujourd'hui et chaque jour de cette année sur ce qui constitue réellement l'essentiel pour rentrer dans le royaume de Dieu. Ta mort à la croix et ta résurrection, afin que nous vivions dans l'unité, dans ton Église, manifestant ton amour, ta justice et ta paix.